Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros, ou qui a parlé tennis pendant 15 jours. Pendant toute la durée du tournoi, vous avez pu retrouver les débriefs de nos spécialistes d'Eurosport.fr pour vivre au mieux ce tournoi. Et ce dimanche, pas d'exception. Je suis aux côtés de Bertrand Millard et Arnaud Di Pasquale pour débriefer cette finale. Comment ça va, messieurs?
Salut Seb, salut Bertie, comment ça va?
Salut, ça va très bien. Avec Novak Djokovic, je suis en train de poser là avec... tout le monde, il pose avec les ramasseurs, il pose avec la personne de l'entretien. Il n'a pas encore fini ses obligations, alors que ça fait un petit moment que la finale est terminée.
Et oui, donc vous avez compris qu'au menu de ce dimanche, nous allons parler en long, large et en travers de ce titre de Novak Djokovic, avec une ribambelle de chiffres tous aussi impressionnants les uns que les autres. On va essayer de disséquer ce troisième Roland-Garros et ce 23e titre du Grand Chelem. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Alors avant de parler chiffres avec ce troisième sacre de Novak Djokovic à Paris, revenons sur cette finale. Casper Ruud s'est quand même bien battu pendant quand même plus de 3 heures de jeu. Il a lâché petit à petit après avoir perdu ce premier set. Et pour vous, où est-ce que cette finale a commencé à basculer? À quel moment de ce premier set pourrait presque ton dire? Je vous demande ça parce que cette manche a duré 1h30 quand même et il y a eu énormément de rebondissements.
Ouais, moi ce qui me concerne, je crois que c'est assez clair. Casper Ruud a eu une balle de 5-3, certes, dans la première manche, mais je crois que ça bascule au moment où il est débreaké, parce qu'il avait fait un très bon début de match, il menait 3-0, en jouant presque à la Nadal, hein, il avait vraiment très bien démarré. Novak Djokovic n'a pas très bien démarré, lui. J'ai trouvé qu'il était un petit peu lent au départ et un peu tendu. C'était beaucoup de fautes en coup droit, notamment. Il était un peu en retard, donc pas très vif, pas très rapide en début de match. Il a mis un peu de temps à rentrer dans sa finale, contrairement à Ruud qui est très bien rentré. Et puis, après quelques Djokovic matchs de qualité qui ont un peu surpris, qui montraient ce côté tendu de Djokovic, eh bien, c'est Ruud. C'est un match également raté par Ruud, qui, à mon avis, est le tournant de ce match. Pourtant, c'est assez tôt dans le match, parce que c'est la balle de débreak de Novak Djokovic, ça lui permet de revenir à 4-3. Derrière, il va égaliser à 4 partout, en sauvant, c'est vrai, une balle de 5-3. Mais derrière, on sent que ça, déjà, voilà, dès qu'il débreak, ça revient. Limite, moi, j'étais avec notre confrère Benoît Mélin, notamment, et d'autres journalistes en tribune de presse. Dès qu'il y a eu le débreak, on s'est dit, bon, voilà, la finale, à mon avis, elle est finie. Alors, c'est vrai que la suite du premier set, elle est encore disputée. Mais on savait même que si elle est au tie-break, on en parlera tout à l'heure, on connaît la qualité de Novak Djokovic au tie-break. Donc pour moi, c'est ça, c'est ce moment-là, même s'il arrive très tôt, c'est la fin du septième jeu, où je crois que déjà, ça se joue.
Tout pareil, non, mais c'est le tie-break, exactement. Moi, je le vois au moment du tie-break et je me dis, s'il n'arrive pas à le tenir, qu'il ne remporte pas cette première manche, derrière, je ne voyais vraiment pas comment il pouvait aller chercher la moindre manche. C'est-à-dire que c'est... Et en plus, moi, mon sentiment, c'est qu'il jouait très bien. Casper Ruud fait vraiment une bonne finale. Il fait une très bonne finale. Enfin, ce premier set, il est énorme. Ça dure 1h30. Il fait face vraiment à un bon Djokovic qui est monté en puissance, hein, comme l'a dit Bertrand, c'est vrai, qui est monté en puissance, mais qui a su encore une fois, une nouvelle fois, élever son niveau de jeu au moment où il le fallait, quoi, avec le break de retard, en approchant de la fin du set. Voilà, alors il y a ce match en effet loupé, mais Djoko en avait loupé aussi. Hein. Mais ce match au moment très important, hein. Pareil.
Donc
c'est
marrant
parce
que. Mais
c'est tendu et c'est normal.
Premier break pour Casper, après un Djoko match magnifique.
Ouais, mais c'est normal en même temps, il y a de la tension. C'est logique que lui rende plus tendu que Casper Ruud, qui là est en finale contre le meilleur joueur de l'histoire. C'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est le meilleur joueur de l'histoire.
On y reviendra après.
On en dit ce qu'on veut, mais c'est le meilleur aujourd'hui. Point. Les 23 titres sont là maintenant. Bon. Ils y sont, c'est factuel.
En tout cas, ce qui est intéressant à observer, après ce premier set, c'est le changement d'attitude de Djokovic. On a l'impression qu'il était au bord de l'épuisement après 1h30 quand même intense, hein, il faut le dire. Et ensuite, il a géré, contenant quand même les derniers assauts qui étaient un peu plus timides de Casper Ruud. Est-ce que vous avez vu ça aussi?
Il y a deux choses. Il y a déjà le tie-break. On a vu impérial dans les tie-breaks dans ce tournoi. Moi, j'avais assisté à celui contre Gatchanov où il met 7-0 en faisant vraiment un tie-break incroyable, des points fabuleux, c'était monstrueux. Il marche dessus. Et là, celui-là, c'est pareil. Il est impeccable ce tie-break. Il est incroyable d'entrée, mini-break, tout de suite, une pression d'enfer, un niveau de jeu retrouvé, un niveau de jeu qu'on ne peut pas avoir plus élevé. Il gagne ce set. Et derrière un set gagné très difficilement, Parfois, il y a un petit relâchement. Eh ben non, pas chez Novak Djokovic, même s'il y a eu beaucoup de temps entre la fin du premier et le début du deuxième. Il est toujours là pour enfoncer le clou et il enfonce en début de deuxième très vite avec un break d'entrée pour mener 3-0. Le deuxième set, c'est presque une formalité. Brut n'a pas existé dans cette deuxième manche parce que lui, justement, il a vraiment accusé le coup de la perte de ce premier set dans lequel il a longtemps mené. Il y en a un qui a été boosté par la gain du premier set et qui a déroulé dans la deuxième manche et l'autre, au contraire, qui était down parce qu'il avait perdu ce set et qui n'a pas su se retrouver du tout dans la deuxième manche. Et très vite, du coup, ça a fait deux manches à zéro. Après, quand Djokovic met deux manches à zéro en finale de Grand Chelem, comment imaginer que Casper Ruud puisse le renverser?
Tu perds 7-6 contre Djoko en jouant très bien et ça fait et en 1 heure et demie tu vois de jeu derrière c'est la mission elle est quasi impossible en fait parce que tu sais que lui en termes de gestion des émotions du stress de ces moments c'est probablement le meilleur ou un des tout meilleurs mais probablement le meilleur ouais, y a évidemment qu'à un moment c'est en début de set c'est compliqué. Je sais pas, j'essaie vraiment de me mettre à la place de Casper Ruud en se disant, il joue très bien. Moi, je trouve qu'il joue très bien. Je pense qu'il fait un très bon match. Voilà, il y a vraiment, ça sort bien de la raquette, en coup droit, en revers aussi. Il bouge super bien, il va chercher des points au filet, il la touche bien au filet. Ok, on va mettre ce smash de côté hein, sur la balle de débreak. Mais sinon, globalement, c'est un match abouti, un set, pardon, abouti. Donc, et là, 1 heure et demie, tu es au changement de côté, tu en as bavé comme jamais, tu as très bien joué. Et tu l'as perdu, ou tu prends plus. Au tie-break, il n'y a pas une faute directe de la part de Djoko, il est monstrueux. Et il faut repartir, se relancer et se dire qu'il faut en gagner trois derrière. Je crois que c'est mission impossible, tout simplement. Et c'est inconscient, évidemment, mais il le sait. Et puis, donc, ce deuxième set part un peu plus vite et le troisième est accroché de nouveau. Et c'est très intéressant et c'est très bien. Il donne tout ce qu'il a. Il n'a pas de regret à avoir, Casper hein, Ruud. Franchement, c'est Djoko qui gagne ce match parce qu'il est à la régulière aussi plus fort. Point.
Alors, les jeux décisifs, effectivement, c'est un point intéressant. Il y a une stat à retenir concernant le Serbe, qui aime bien jouer les tie-breaks, surtout à Roland-Garros cette année. Alors, il n'a pas commis une faute directe dans les tie-breaks lors de ce Roland-Garros, ça vous le savez sans doute, on l'a déjà évoqué, mais il y a encore plus fort, parce que d'après Jeu 7 Mat, notre partenaire durant toute cette saison, Novak Djokovic est devenu le premier joueur à gagner 6 tie-breaks consécutifs pour remporter Roland-Garros. En Grand Chelem, trois autres joueurs avaient fait la même chose. Stan Smith à l'US Open 71, Pete Sampras à l'Open d'Australie 94 et Andy Murray à l'US en 2012. Novak Djokovic a dit une chose intéressante après son match. Il a dit que quand il était petit en Serbie, il jouait énormément de tie-break, que l'essentiel de ses jeux, c'était de remporter des tie-break. Donc c'est quelque chose que quelque part il a nourri tout au long de sa carrière et donc très petit, mais est-ce que cette stat vous étonne particulièrement?
Pas vraiment parce que c'est un monstre. C'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs, même les très grands joueurs et les monstres du jeu, quoi. Il y en a eu trois monstres du jeu et lui, c'est le plus grand des trois monstres maintenant, vous voyez. Et ça m'étonne pas vraiment parce qu'il arrive à être. C'est ça qui est complètement dingue, c'est d'arriver à être le meilleur à chaque fois dans les moments les plus chauds, quoi. Je vous dis, il y a eu ce contre Khachanov, il perd quand même la première manche. Donc s'il perd le tie-break, il est mené 2-7-0. Mais ce tie-break, il le survole. Et on a l'impression qu'il a zéro pression, alors que la pression est énorme d'être mené deux manches à zéro. Il met 7-0 en jouant parfaitement. Et là, le tie-break, on s'est regardé, je sais pas, on n'avait aucune crainte pour lui. On a l'impression qu'il allait forcément le gagner. Et il survole ce tie-break encore. Donc, c'est pas très étonnant. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, j'ai pensé pendant cette finale à celle de Wimbledon 2019 contre Roger Federer, où Novak Djokovic ne joue pas très bien, n'est pas le meilleur des deux joueurs sur le court. Il y a les deux sets qu'il perd, il les perd sèchement. Il marque moins de points que Federer. Il a beaucoup moins de points gagnants que Federer aussi sur ce match-là. Mais il gagne trois tie-breaks. Trois tie-breaks. Et en fait, c'est une marque de fabrique, là encore. Hein. Mais c'est la marque vraiment des tout meilleurs. Et c'est la marque aussi des joueurs qui ont un mental d'acier, ce qui est son cas. C'est une marque de fabrique, effectivement. Niveau mental, on avait Nadal, effectivement. Il y a eu Connors à une époque, il y avait Nadal et Djokovic, je crois qu'il était encore plus haut en termes de niveau mental, de force mentale. C'est complètement dingue ce qu'il nous propose depuis 15 ans maintenant, et notamment depuis la trentaine. Donc, moi, je ne suis pas étonné parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'il arrive à mettre un petit coup de pression supplémentaire, qu'il arrive à élever un petit peu son niveau de jeu et finalement à dépasser son adversaire.
C'est le king du money time, en fait.
Exact. Non, mais c'est bah là, je vais paraphraser, donc franchement, je vais pas repartir dans une logorée qui m'est propre, hein. Mais non, non, mais vraiment, oui, voilà, c'est le champion du money time, exactement. C'est le gars qui, par excellence, est capable au moment les plus importants d'être hermétique à tout ce qui se passe, à rentrer dans sa bulle, à n'être atteint par rien du tout. Focus sur le point, le moment présent et uniquement ça avec son meilleur tennis qui rejaillit à chaque fois. Voilà, mais
Et
c'est
comment c'est
tout.
possible,
Ça,
Arnaud,
à
ça?
chaque fois. Mais ça, franchement, je pense que c'est possible. Tu vois, tu as évoqué Federer et Nadal. Ils sont les seuls à réussir à ce point, à se fermer un petit peu à tout ce qui peut se passer autour. Il y a un côté presque un peu robotique, hein, dans le process en fait pour arriver là, mais pourtant c'est ce qui marche, hein, probablement. Mais ça se travaille quand même, ça se travaille, je pense, à l'entraînement tout le temps. Je pense que dès le plus jeune âge, enfin, c'est ceux qui sont les plus rigoureux, sérieux, ambitieux, déterminés, tu vois, je pense que c'est aussi une rigueur tout simplement que tu t'imposes et ça se travaille. Il y en a souvent qui disent à l'entraînement, tu peux le travailler. Après, évidemment, c'est le stress et la tension. Et puis là, après, il y a l'expérience en plus. Donc, c'est à passer 30 ans, 35 ans en plus, là, je pense que ces moments-là, tu les gères encore mieux avec autant de matchs, de victoires derrière toi. Bah, on l'a vu, hein, enfin, on va pas revenir sur Alcaraz qui a explosé en vol. Et alors qu'on l'attendait, bah, Djoko, lui, voilà, tous les matchs, il a été dans une gestion de ces matchs, de la durée des matchs, du stress des matchs, de la tension. Il a été impeccable parce que hey, ce qu'il réalise, Roland, pour lui, c'est le plus dur à aller chercher. C'est clair.
Il a
C'est
dit, ouais.
sûr. Mais non, mais c'est sûr et c'est vrai. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense aussi. Enfin, vraiment. Donc, aller chercher son troisième là et le 23e à Roland, je trouve que c'est quand même super costaud. C'est aussi très fort et un sacré message qu'il envoie parce que derrière, ça reste ouvert.
Il perd plus souvent finalement dans les matchs au meilleur des trois qu'au meilleur des cinq. Parce que au meilleur des trois, voilà, ça va un peu plus vite là. Même quand il démarre pas très bien, un peu diesel comme
Bah.
aujourd'hui, finalement, même s'il perd la première manche, je suis sûr que
Ouais.
même pour lui, c'est pas très grave, hein. Le match est encore.
Il s'inquiète jamais. Il s'inquiète jamais. Il sait qu'il peut revenir, c'est qu'il y aura toujours un moment, une ouverture, une brèche, et il la saisit parce que dans ces moments-là, ses adversaires se disent, il faut que je continue à surjouer, à être presque en sur-régime. Et c'est là où tu peux pas, dans les moments de stress, garder ce niveau. Clairement, il y a ces petites erreurs, elles interviennent forcément quand il y a un peu plus d'émotion, un peu plus de tension, pendant que lui, à l'inverse, c'est là où il arrive à se détendre, à se relâcher et cueillir ses adversaires.
Alors, ce 23e, justement, comment est-ce que vous le jugeriez par rapport aux 22 autres?
Bon, moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Pour moi, voilà, ça le classe comme le meilleur joueur de l'histoire aujourd'hui. Point. Voilà, je m'arrête là.
Alors, au moment où il est en train de poser avec sa femme et ses enfants, c'est très mignon d'ailleurs sur le court. C'est les images que vous verrez certainement bientôt tous. Et j'ai le privilège de voir en premier là sur le central. Il a fait comme à Wimbledon l'année dernière. Aujourd'hui, Federer a arrêté. Et Nadal il va être absent encore pendant longtemps. Et s'il veut revenir, donc si maintenant il est dans la course de l'autre, il faut qu'il en gagne encore au moins un, sachant que d'ici là, Djokovic peut en gagner d'autres. Et ce serait pour Rafael Nadal, maintenant on le sait, c'est quand même quasiment plus que sur terre battue. Ça veut dire qu'il gagnerait à 38 ans ici l'année prochaine. Et ça paraît malheureusement, même pour les fans de Nadal les plus ultimes, peut-être quand même compliqué à imaginer parce qu'il a il joue de moins en moins, il n'a pas fait une grosse saison l'année dernière non plus, avec déjà beaucoup de blessures. Là, il n'a pas joué depuis l'Australie, donc ça fait beaucoup. Donc ça, là, on a l'impression qu'il a peut-être fait le break définitif. C'est comme dans un match de tennis, c'est peut-être le double break, tu vois, le break de secours là. C'est peut-être même s'il a qu'une longueur d'avance sur Nadal. Et puis il y a un autre chiffre aujourd'hui qui est très important, très très important. Et là, il n'est plus rattrapable selon moi. C'est qu'il a gagné maintenant chaque Grand Chelem au moins 3 fois, au moins 3 fois chaque Grand Chelem. Et pour le rattraper, Nadal devrait gagner encore un Open d'Australie et un Wimbledon. C'est hallucinant. Il n'a pas été le premier à tous les gagner 2 fois. Et maintenant, il avait tous gagné 2 fois comme Nadal, mais là maintenant, il a tous gagné 3 fois. Et ça, c'est insensé, c'est hallucinant. Et je pense que là, il ne peut pas être rattrapé là-dessus, ce qui donc met ce titre-là au-dessus, je pense, encore au-dessus des autres.
Lui, il a déclaré que dans son top 3, il y avait l'Open d'Australie 2008, le
Le premier.
premier qu'il a gagné face à Joey Faitsonga.
Ouais.
Son premier Wimbledon aussi, parce que c'était un titre après lequel il courait depuis toujours, depuis qu'il était
C'était
tout
son
petit.
rêve d'enfant aussi, ouais.
Ouais,
Voilà,
exactement.
c'était en 2011. Et puis, bien sûr, celui-ci qu'il fait passer devant Rafael Nadal en termes de record. Un record en grand chelem chez les hommes, désormais, mais pas absolu. car c'est Margaret Court Smith qui détient toujours le record avec 24 titres du Grand Chelem. Et ce qui est drôle, après je vous donne la parole, c'est que ça fait 50 ans que l'Australienne a remporté son dernier titre du Grand Chelem en individuel, c'était à l'US Open 73. Voilà, elle avait 31 ans, lui il en a 36 et pourtant on a l'impression qu'il en a encore, mais plein sous le pied.
Alors déjà, Margaret Court, il y a beaucoup de titres qui sont hors Air Open. Ensuite, c'est difficile de comparer le tennis féminin et le tennis masculin, mais le record absolu, il a quand même je pense qu'il a de bonnes chances effectivement d'aller le chercher. Déjà à Wimbledon, je ne lui vois pas d'adversaire à sa taille. Juste un truc, il y a un record qui ne battra pas, le seul, je crois, hein, c'est celui de Nadal ici, évidemment, 14 titres, moins de joueurs qui a plus de 50 ans. Non, celui-là, il ne le battra pas. En revanche, à Wimbledon, et ça, c'est quand même insensé, il peut devenir recordman absolu. Il est à une longueur de Roger Federer. S'il gagne cette année, l'égal Federer, sachant qu'il est, encore une fois, assez intouchable sur gazon depuis un moment, c'est un record qu'il peut viser. Mais moi, je le verrais bien enchaîner avec le 24e dans la foulée. Je vous dis, à Wimbledon, je ne lui vois pas d'adversaire à sa taille capable de le battre. À moins qu'il se blesse ou à moins d'une surprise énorme, mais voilà. Donc, on pourrait avoir aussi cette femme de nouveau, peut-être la jouer pour le Grand Chelem calendaire à l'US Open. C'est un peu de la fiction, mais pas tant que ça. Donc oui, alors, le record absolu, cette année, peut-être pas. Il va peut-être quand même pas faire le Grand Chelem, mais.
Tu viens de dire l'inverse,
Non,
il y a chance, c'est bon.
j'ai dit pas forcément cette année. J'ai dit
Ah,
qu'il
d'accord.
allait l'égaler, certainement, je pense, parce qu'il va gagner Wimbledon. Je pense qu'il aura du mal peut-être à gagner les quatre, mais l'année prochaine, il a encore, quand on voit le niveau physique qu'il a, je pense que c'est dans ses cordes. Et de toute façon, le but pour lui, c'est de battre quasiment tous les records qui existent. Donc je vous dis, à part celui de Nadal à Roland-Garros qui est absolument intouchable, il y a encore quelques-uns qui peuvent, à mon avis, aller chercher. Et le record absolu, je pense qu'il peut largement aller chercher.
Arnaud, tu évoquais la course du Go tout à l'heure. Ce titre pour toi met définitivement fin au débat? Ou est-ce qu'on est passé au-delà de cette question maintenant?
Non, mais en fait, c'est pour ça que sur les mots, en fait, c'est important. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser que le plus grand, c'est Federer. Il y en a qui vont penser que le plus grand, c'est Nadal. Il y en a qui pensaient que le plus grand, c'est Djoko. Mais le meilleur, et c'est la différence, c'est Djoko. Parce que quand on parle du meilleur joueur, c'est celui qui a remporté le plus de titres de Grand Chelem. Je pense que c'est là où j'insiste. Après, chacun choisit celui avec lequel il a le plus vibré. C'est comme ça.
C'est
Et
vrai.
celui qui... Non, mais c'est de l'émotion, c'est le sport.
C'est vrai.
Ça appartient à tout un chacun, justement, de choisir. Mais sur les résultats, on ne peut pas lui enlever ça. 23, il est devant. Et la question, c'est de savoir s'il y en aura plus. Oui, il y en aura plus. Bien sûr qu'il y en aura plus. Parce que, comme tu le dis, Seb, il en a sous le pied. Là, quand tu le vois physiquement, il est au top. Et ce premier set d'une heure et demie, évidemment, qu'il est douloureux, mais pour les deux. Et d'ailleurs, c'est lui qui, d'ailleurs, réagit à mieux derrière parce qu'il y a le gain de la première manche, parce qu'il gère mieux encore ces moments-là. Mais sur gazon, Bertrand l'a dit, bah, c'est vrai que c'est en qualité de retour, de déplacement, il a montré que c'était probablement le meilleur sur cette surface ces dernières années, donc depuis la fin de la domination fédéraire. Donc il y a quand même de bonnes chances qu'il arrive à remporter. Après, la question, c'est de savoir si ce 23e, à un moment, quand tu atteins de tels objectifs, il peut y avoir aussi une sorte d'effondrement derrière. De
C'est vrai.
difficultés. Voilà, c'est le seul truc, mais j'y crois pas. Là, quand je le dis, je dis juste que ça peut arriver. On en a vu d'autres. À un moment donné, atteindre un objectif qui est si élevé qu'une fois que tu y arrives,
Tu le vois
il y a une
s'écrouler,
sorte de décompression.
tu penses?
Non,
Ça
mais
peut lui, hein?
c'est arrivé. Il a quand même eu des périodes de moins bien.
Bah,
C'est
quand il
arrivé
a
en
gagné Roland Garros pour la
2017.
première fois, non, mais voilà,
Exactement.
en 2016 même, hein, juste après.
Et donc après, il est moins bien. C'est ce que je dis. Donc après, donc c'est pour ça que ça peut arriver. Mais. Je crois qu'au contraire, Bertrand parlait du break et du double break. Je crois qu'au contraire, ce qu'il va vouloir, c'est en profiter. Au contraire, pour justement essayer d'aller continuer bah voilà, cette ascension et peut-être battre des records. Et pourquoi pas, en effet, aller chercher ce grand chelem calendaire, évidemment. En tout cas, dans son esprit, rien n'est impossible. Au contraire, et c'est ce qui est génial. Et c'est pour ça qu'on va suivre ça de très près et que c'est très excitant.
Est-ce que c'est pas ça justement qui pourrait le faire définitivement basculer en tant que GOAT absolu, c'est de faire ce grand chelem calendaire quand même, ce que ni Federer ni Nadal n'ont réussi à faire derrière.
Bah, oui, mais là, je crois que Arnaud a raison. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est déjà là. Il est déjà. Il a le record. Il a le record face à Nadal. Enfin, il a plus de victoires de défaites contre Nadal. Idem contre Federer. Il a le record de Masters 1000. Il a le record de Grand Chelem. Il
Deux
a gagné chaque
semaines
Grand Chelem.
aussi en
Il a gagné
numéro un
à deux
mondial
semaines
aussi,
numéro un.
hein.
Il est au Masters. Il est égalité avec Federer, me semble-t-il. Et il est maintenant à trois grands à trois victoires minimum dans chaque grand chelem. C'est déjà le plus grand hein, dans les chiffres. Donc un grand chelem calendrier, ce serait extraordinaire. Maintenant, attention, n'allons pas trop vite, encore une fois. On a vu que la dernière fois à l'US Open, ça avait été trop lourd à porter sur le plan mental, mais c'était aussi aller chercher le 21e à l'époque. Hein, ils étaient encore à 20-20-20. Donc là, il est devant. Donc là, il y aura moins ce poids-là, ce poids d'être devant au niveau du nombre de grands chelems. Mais égaler Rod Laver, là, ça fait quand même quelque chose comme ça fait 54 ans que ça n'a pas été réalisé. Ça
En tout
sera.
cas, Djokovic lui a dit qu'il se sentait toujours très bien physiquement, qu'il joue pour gagner au moins Wimbledon encore une fois. Donc, effectivement, c'est aussi coché dans sa liste, hein, dans sa
Hey.
to-do à faire d'ici la fin de l'année, qui va arriver très bientôt, et qu'il est motivé toujours pour faire l'histoire de ce sport. Mais ça, est-ce qu'il a encore besoin de le dire? On a tous compris que sa carrière n'était pas encore finie et qu'effectivement, il pouvait aller à 24, 25.
Non, mais c'est difficile, mais là, il a au moins, enfin, je sais pas, quand on le voit comme ça physiquement, avant de commencer à décliner, il a au moins deux belles années devant lui quand même. Enfin, j'ai l'impression, il peut y avoir des petits pépins, des petits trucs, mais globalement, il semble encore très frais. Il fait tout pour rester le plus athlétique possible, et ça marche, la preuve. Donc, ça veut dire qu'il a, ouais, 6, 8 grands chelems à jouer encore, assurément.
Alors après, attention, parce que lui va prendre quand même des années en plus, et puis Alcaraz et les autres, Rune, etc., vont arriver un peu plus à maturité, 21, 22, 23 ans, enfin, à un moment donné, évidemment, ça va être de plus en plus dur.
Parce que physiquement,
Mais
il a souffert quand même. Enfin, j'ai l'impression que
heureusement,
celui-ci. Non, mais
ouais.
d'accord, mais lui, il dit que tout va
Mais
très
c'est le
bien
plus dur,
et
c'est
que.
sur Terre, c'est le plus dur pour lui, encore une fois. C'est de la Terre, c'est le plus dur. Vraiment, c'est pas pareil.
Contre Alcaraz, je pense qu'il était vraiment en souffrance à la fin du deuxième. Effectivement, mais l'histoire a montré que c'est celui de 36 ans qui a été le plus costaud physiquement, puisque celui de 20 ans a crampé au début du troisième set. Donc, il a tellement imposé nerveusement au début de match à son adversaire que c'est celui-ci qui a craqué. Et voilà, c'est aussi de ses forces rentrées dans la tête des adversaires pour peut-être parfois les faire soit dégoupiller, soit faire qu'ils soient tellement nerveux qu'ils vont physique. Donc là, pour l'instant, physiquement, moi, je trouve ça impressionnant, hein, à 36 ans, mais il a une éthique de vie, une hygiène de vie impeccable. Hein. Il a dit de 8h30 par nuit. Il a une diététique, il pèse absolument tout ce qu'il mange. Enfin, c'est vraiment au gramme
Tout est
près,
millimétré.
etc. Tout est
Bon.
millimétré. Ouais.
Mais
Il
rien.
pourrait pas être à ce niveau-là physique,
Oui,
autrement.
si quelque chose était laissé au hasard, effectivement. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. On va refermer doucement cette page Roland-Garros avec cet épisode de Deep Impact. Merci.
Non, j'ai dit sniff, je suis triste,
Sniff.
triste.
C'est peut-être la fin de la quinzaine de Roland-Garros, mais c'est pas la fin du podcast Deep Impact parce
Ah.
qu'on va revenir dès mardi pour. Revenir sur cette quinzaine. C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont permis de faire ce podcast tous les jours. Adrien Yo, qui a présenté l'émission avec moi, Bertrand, Laurent Vergne et Maxime Battistella, hein, fidèles parmi les fidèles tout au long de l'année, et nos confrères, passionnés comme nous, qui nous ont rejoints pour l'événement, Cyril Morin, Christophe Godeau et Martin Mosnier, sans oublier Constance du compte Je sais tes maths, qui nous a servi des stats tout au long du tournoi. Et bien sûr toi Arnaud, sans qui cette émission ne serait pas. C'est
Le
aussi
nom
le.
de l'émission ne serait pas. Sinon...
Oui, c'est vrai. Milliard Impact,
Non,
ça
non,
c'est.
l'émission ne serait pas, monsieur Millard.
C'est aussi l'occasion de remercier tous les auditeurs, les internautes qui nous ont suivis et découverts aussi pour certains. Merci en tout cas pour vos messages et votre soutien. On se retrouvera donc mardi pour une nouvelle émission. Vous pouvez quand même suivre encore toute l'actu sur notre application Eurosport. D'ici là, portez-vous bien. Puis bah, à bientôt, messieurs.
Ciao,
Salut Seb,
ciao. Et
salut
rendez-vous
Bertrand,
pour le
merci.
gazon bientôt sur Eurosport. Ciao.
Salut, ciao.